Nous poursuivons notre parcours avec, si je puis dire, de la spiritualité mariale appliquée, à savoir la prière du rosaire, la prière du chapelet, alors qui, en tant que famille religieuse, nous est particulièrement à cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, enfin, de voir des photos du Père Lamy. Alors là, on voit juste le haut de son. Mais il faut savoir que dans la plupart des photos des portraits du Père Lamy, on le voit toujours le chapelet à la main. Et il avait cette grâce pratiquement de réciter, même en jardinant, même son chapelet. D'ailleurs, depuis son plus jeune âge, puisqu'on l'appelait dans son village du Pailly, en Haute-Marne, on l'appelait l'enfant au chapelet. Alors voilà, c'est pas du tout une obligation, mais c'est pour. Cela nous dit quelque chose de sa physionomie spirituelle. Et lui-même disait que, puisqu'on va parler de la difficulté parfois, enfin, d'avoir l'impression de rabâcher ou de tomber dans une certaine monotonie, et lui-même disait que ben, plus il priait les mystères du rosaire, plus plus il entrait dans la contemplation très, très concrète de ce mystère. Donc ça, c'est une première réalité. Alors c'est non seulement effectivement une prière qui est recommandée pour toute l'Église, mais qui, en tant que serviteur de Jésus et de Marie, nous est particulièrement chère. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que retiennent les personnes qui nous fréquentent pour la première fois, si je puis dire. En général, le souvenir qu'ils gardent, c'est le chapelet que nous disons tous ensemble sous forme de promenade digestive après le déjeuner, hein, dans le parc, que ce soit à Ourskant ou ici ou en Argentine. Enfin, en Argentine, il y a une différence très importante, c'est que le chapelet se dit après les vêpres le soir. Mais c'est à peu près la seule différence. Voilà. Un deuxième point qui me semble aussi très important, c'est que le chapelet est un moyen. C'est un moyen privilégié, mais ça reste un moyen. Autrement dit, dans l'histoire de l'Église, il y a des grands saints avec chapelet et il y a des grands saints sans chapelet. Je dis ça parce que dans le cas où la prière du chapelet ne vous serait pas spontanée, c'est un moyen qui vous est recommandé, mais il ne s'agit certainement pas de tomber dans le scrupule. Le but du chapelet, c'est de nous faire grandir dans l'intimité avec Marie pour que Marie elle-même, eh bien, nous apprenne à faire ce qu'elle indique elle-même au serviteur des noces de Cana, hein, faites tout ce qu'il vous dira. Hein, c'est donc un chemin spirituel, comme dans l'Église, il y a beaucoup d'autres chemins spirituels. Hein, et dans l'Église, il y a enfin, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais il y a une pluralité de spiritualité, et c'est une très bonne chose. On a toujours le risque, nous, toujours comment dire, de donner trop d'importance, d'absolutiser ce qui reste des moyens. Je me rappelle un jour, j'accompagnais à l'époque, la basilique dans les années 90, il y a eu beaucoup de mouvements apostoliques autour de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Et je me rappelle, on faisait un pèlerinage à Chartres au mois de mai. Et je me rappellerai toujours, on m'a demandé d'accompagner un chapitre d'Antillaise, enfin, tout à fait pieuse, mais qui pendant tout le pèlerinage ont cessé de parler des mérites comparés de Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame de Garabandal. Bon. Je les ai presque scandalisés en disant, vous savez, je crois que c'est la même, hein, normalement. Voilà. Alors, encore une fois, c'est tout à fait normal parce qu'on a chacun notre chemin spirituel vers Dieu. Une fois, un journaliste demandait au cardinal Ratzinger, donc le futur Benoît XVI, lui demandait combien y a-t-il de chemins vers Dieu? Alors vous sentez toute la perfidie de la question. Hein, c'était au fond poser la question du pluralisme des religions. Et le futur pape Benoît XVI a eu cette réponse géniale. Il a dit autant qu'il y a d'hommes. Hein, c'est-à-dire que chacun. Nous avons une relation unique et personnelle avec Dieu, comme d'ailleurs vous le savez très bien, chacun de vos enfants a une relation unique et personnelle, et vous êtes vous-même complètement et totalement impliqué dans la relation que vous avez avec chacun de vos enfants, même si vous en avez plusieurs. Au fur et à mesure que les enfants s'annoncent, bon, on ne divise pas l'amour ou l'attention qu'on leur porte. Hein. Voilà, bah, tu étais tout seul, tu avais le droit à 100% de notre homme, maintenant voilà, ton petit frère ou ta petite soeur qui arrive, bah, maintenant tu n'as plus le droit qu'à 50%, et ainsi de suite. Bon moyen de traumatiser un gamin. Non, évidemment, les parents sont impliqués dans la relation éducative à 100% avec chacun de leurs enfants. Bah, c'est vrai aussi de notre relation à Dieu. Voilà. Donc, mais il est vrai aussi que bah, il est toujours bon de profiter de l'expérience des autres et. On va dire parmi les moyens qui sont mis à notre disposition pour grandir dans la vie spirituelle, on peut dire que, en tout cas dans l'Église, on va dire catholique d'Occident, le chapelet a une place toute particulière et qui a été soulignée par les papes. C'est pour ça que ce matin, je voudrais surtout me faire l'écho de l'enseignement de deux papes récents, donc le bienheureux pape Paul VI et Saint Jean-Paul II. Le pape Paul VI a écrit toute une lettre sur la spiritualité mariale, au fond comment prier notre mère, comment nous adresser à notre mère du ciel. C'est une lettre qui date du 2 février 1974, à une période de crise. Le concile avait suscité beaucoup d'espérance et un certain nombre de réformes dans l'Église. Et il est vrai que quelques années après, donc vous voyez presque 10 ans après le concile, le pape Paul VI lui-même faisait le constat. Il l'a dit dans une catéchèse d'une audience générale du mercredi après-midi. Au lieu du printemps attendu, ce fut et nous sommes encore dans un rude hiver. Alors il faudrait multiples colloques et réflexions sur ce sujet-là, et c'est très intéressant parce que, si je puis dire, d'une certaine façon, nous ne sommes pas encore sortis de la crise. Alors, vous savez, comme disait Monsieur Santini, dans un autre contexte, on était au fond de la piscine et maintenant on la creuse. Mais voilà, il faut tenir compte de cette situation-là. Et en tout cas, enfin, ma petite hypothèse personnelle, c'est de dire que, justement, on avait, les pères du Concile aussi, avaient très largement, je pense, sous-estimé la crise de civilisation que nous vivons en gros depuis 2 siècles. Et que, bah, et un des aspects de cette difficulté, mais là, ce n'est pas du tout parole d'évangile ce que je vous dis là, hein, c'est vraiment une petite hypothèse personnelle, c'est que justement, c'est cette sorte de malentendu que, avec la culture du moment, nous pouvons employer les mêmes termes et nous ne mettons pas les mêmes réalités. Je crois vous l'avoir suffisamment montré à propos de la liberté, mais on pourrait dire ça de beaucoup d'autres réalités. Alors, ça ne nous empêche pas de vivre dans le monde, hein. Les chrétiens ne sont pas des zombies, ne sont pas des... Mais évidemment, il y a une distance de plus en plus grande, on va dire, entre la modernité, voire ce qu'on appelle aujourd'hui la postmodernité, et le christianisme. Et je pense qu'à un certain moment, bah, il faudra mettre les choses un petit peu sur la table et de dire, bah, écoutez, ne serait-ce que par respect pour nos interlocuteurs, c'est-à-dire, bah, voilà, quand l'Église parle de liberté, voilà ce qu'elle entend. Lorsqu'elle parle d'exigence de l'Évangile, voilà ce qu'elle entend. Lorsqu'elle parle de la dignité de la personne humaine, voilà ce qu'elle entend. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas une coopération possible avec les hommes de bonne volonté. Je dirais que même la question du dialogue de l'Église avec le monde n'existe pas. Le monde, ça n'existe pas, si je puis dire. C'est des personnes qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas, qui dialoguent ou qui ne dialoguent pas. Et donc ça suppose aussi de la part des chrétiens, ben, peut-être d'être renforcés, d'être, un peu, j'allais dire, musclés dans leur identité. Hein, non pas pour, ce qu'ils ont d'ailleurs que trop tendance à faire la morale au monde entier, c'est pas du tout ça, mais voilà, d'être un petit peu assurés. En fait, il n'y a de dialogue possible que s'il y a une identité claire. Et je pense d'ailleurs que nous pouvons comprendre surtout le pontificat de Jean-Paul II et de Benoît XVI comme une volonté, enfin comment dire, une urgence pour les chrétiens à se réapproprier leur christianisme. Voilà, enfin bon, tout ça c'est un petit chapitre d'introduction, mais voilà un petit peu le contexte. Et en tout cas aussi de revenir à l'essentiel, et je crois que la prière du chapelet peut nous y aider considérablement. En tout cas, la prière du chapelet, alors là, je vais commencer donc par le pape Paul VI, et puis après, j'aborderai un texte de Saint Jean-Paul II. Donc, un texte sur le culte marial, où il rappelle justement, alors après les remises en cause, y compris parce que il y a eu le concile, et puis il y a eu les interprétations qui en ont été faites après. Et effectivement, on va dire, la piété mariale, le culte marial, a, si je puis dire, beaucoup souffert. Hein. C'est-à-dire que, sous prétexte de valoriser beaucoup la prière liturgique et de remettre le Christ au centre, ce qui est tout à fait légitime, mais on en a oublié un petit peu parce que j'ai essayé de vous dire hier à propos des médiations. Hein, c'est que, bah, de même que nous avons besoin de la médiation de nos parents nous avons eu besoin, pour la plupart, je pense, de la médiation de nos parents, eh bien, pour accueillir les vérités de la foi, pour vivre de la foi, eh bien, il ne s'agit pas évidemment de tout mettre sur le même plan, mais de découvrir combien, dans le christianisme, tout se tient, et tout se tient de manière de manière cohérente et organique. J'avais un petit peu étudié la pédagogie de la foi qui était mise en œuvre dans les collèges jésuites à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Et c'était assez impressionnant parce qu'en gros, jusqu'à la quatrième, jusqu'à la cinquième, l'équivalent de la cinquième, on expliquait aux gamins, ben voilà, le christianisme est une religion parfaite parce que Jésus-Christ est parfait. Ça fonctionnait très bien comme ça. Et puis évidemment, arrivé à l'adolescence, ben, il faut expliquer pourquoi. Et la pédagogie ensuite était justement de montrer qu'évidemment, tout n'était pas à mettre sur le même plan. On ne va pas mettre sur le même plan, je ne sais pas, la dévotion à l'eau bénite, par exemple, et la rédemption par le sang du Christ, mais que tout se tient. Et que normalement, dans ce tout qui est un petit peu coordonné, organisé, eh bien, au fond, tout nous renvoie au Christ. Hein. Pour reprendre une belle expression de Georges Bernanos, hein, dans l'Église, il n'y a que le Christ qui soit vraiment intéressant. Et tout est en référence au Christ. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de séparer des médiations, hein, ce qui serait toujours le risque. On peut faire de la Vierge Marie, si je puis dire, un absolu, comme on peut faire du pape un absolu. Hein. Mais il s'agit de montrer comment, dans la foi, tout est organiquement lié de manière hiérarchisée. De la même façon que dans une famille, hein, Dieu sait s'il suffit de voir ce que peut-être une vie de famille, par exemple un samedi après-midi, hein, entre les conduites, les activités, les voilà, eh bien, c'est extrêmement divers et tout est unifié ben, par l'amour qui existe dans la famille. Le principe unificateur de la vie familiale, au fond, c'est le sacrement de mariage et ses conséquences. Et qu'au fond, quelles que soient les activités que l'on fait, des plus prosaïques aux plus merveilleuses, aux plus réconfortantes, aux plus satisfaisantes d'un point de vue, par exemple, affectif, eh bien, tout cela est unifié profondément par la grâce du sacrement de mariage. Eh bien, pour la vie spirituelle, il en est un petit peu la même chose. Et donc, justement, le pape Paul VI, dans cette période de troubles, dans cette période difficile, des années qui ont suivi le concile, en quelque sorte, a voulu revenir à l'essentiel, hein. On vient de fêter le cinquantenaire de la profession de foi solennelle qu'il a émise, hein, au nom du peuple de Dieu, comme pour rappeler alors, c'est pas substitué au formulaire de la foi que nous connaissons et que nous récitons le dimanche à la messe ou dans nos journées, mais voilà, c'est un très beau texte développé qui donne vraiment les grandes vérités de la foi, de l'Église, à propos du mystère de Dieu, à propos de l'Église, à propos des sacrements, etc. Et puis, il y a eu aussi la volonté vraiment de redonner le sens du culte marial, hein, de la piété mariale, en insistant tout particulièrement sur le rosaire. Alors, le rosaire tel que nous le connaissons sous sa forme, sans compter les ultimes modifications ou ajouts de Saint Jean-Paul II, mais il faut savoir que les 150 Ave Maria du rosaire correspondent, hein, aux 150 psaumes. C'est qu'on parle souvent du rosaire comme le psautier des pauvres ou le psautier de la Vierge Marie. Et que son organisation telle que nous le connaissons, hein, avec des trois séries de mystères, nous le devons donc au grand pape réformateur Saint Pie V, donc un pape dominicain, et de fait les dominicains ont joué un grand rôle dans la propagation de la dévotion du Saint-Rosaire, et lui-même, donc en 1569, hein, c'est un pape qui a promulgué le missel tridentin, qui a promulgué le bréviaire, qui a promulgué le catéchisme du Concile de Trente. Enfin, ça a vraiment été le pape qui a eu la grâce d'appliquer le Concile. Et on lui doit aussi d'ailleurs la fête liturgique du Saint-Rosaire, hein, célébrée en octobre, et qui correspond à la victoire de Lépante. Hein, c'est-à-dire que, justement, le pape Saint-Pie V avait demandé à toute la chrétienté de prier pour que l'Occident soit débarrassé de la menace turque. Et le grand miracle, c'est qu'effectivement, les troupes du Saint-Siège, bon, elles étaient un peu renforcées par la marine de Venise, mais que les troupes du Saint-Siège remportent une victoire militaire, ça c'était déjà en soi un quasi-miracle, hein, parce que les armées des États pontificaux n'ont jamais brillé par leur capacité, par leur capacité militaire. Napoléon Bonaparte en sait quelque chose. Voilà. Et donc, mais en tout cas, voilà, l'occasion de l'institution de la fête du rosaire, c'est une fête d'action de grâce à propos de la victoire de la bataille de Lépante. Alors, ce que le pape Paul VI souligne d'une manière particulièrement heureuse, c'est que justement, la prière du rosaire est tout à la fois une prière de louange et de supplication, ce qui est au fond la prière chrétienne. Quand vous regardez les grands textes de prière dans l'Ancien Testament, on fait d'abord mémoire des merveilles que le Seigneur a accomplies. Et puis, à partir de cette action de grâce, on le supplie, eh bien si je puis dire, de poursuivre, l'œuvre de ces merveilles. Prenez les grands textes de Moïse, des prophètes dans l'Ancien Testament, c'est vraiment la structure, de toute prière. Et nous retrouvons donc cette double dimension, dans la prière du rosaire. D'abord, nous rendons grâce pour le mystère du salut, spécialement le mystère de l'incarnation que la Vierge Marie a permis. Et puis, nous supplions, pour nous, pauvres pécheurs. Voilà. Et cette prière, est instamment répétée parce la pédagogie consiste en la répétition, comme vous le savez bien. Et nous avons besoin, non pas d'apprendre à Dieu son mystère, mais de nous en imprégner. Et la répétition remplit cette fonction-là. Et le tout menant, donc la louange et la supplication, menant à la contemplation. Alors, nous ne devons pas avoir peur de ce terme, la contemplation, c'est simplement l'attitude mariale à l'annonciation. C'est-à-dire, la contemplation, c'est pas être en extase obligatoirement, mais c'est justement d'être dans cette attitude d'accueil de la révélation, d'accueil du plan de salut de Dieu sur ma vie. Alors que nous voyons un peu systématiquement et assez spontanément ce qu'il faut faire, les engagements qu'il faut prendre, alors que c'est d'abord une grâce à recevoir. Et très souvent, nous gâchons ces grâces-là, bah, parce que nous ne sommes pas en situation de les accueillir. C'est un des messages des apparitions de la Vierge Marie rue du Bac, justement là, pour le coup, qui anticipe le dogme, je crois que c'est en 1830, donc ça anticipe très largement la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, où justement Marie est invoquée, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et l'image qui est représentée, la Vierge Marie, c'est une Vierge Marie donc qui a les mains ouvertes et des rayons sortent de ses mains comme signe des grâces qu'elle veut communiquer ou que Dieu veut communiquer par elle. Mais remarquez, Sainte Catherine Labouret, un certain nombre de rayons étaient comme gris, grisâtres. Et la Vierge Marie lui a dit, ben, c'est toutes les grâces que je devrais pouvoir donner, mais que je ne donne pas parce qu'on ne me les demande pas. Et Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices, dit bien qu'il y a des grâces que Dieu ne peut donner que si on les lui demande. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire sa petite liste. Hein, et puis voilà, quand on est confronté, ben, comme spontanément un enfant confie ses malheurs à ses parents, à sa mère, eh bien, nous devrions avoir, à l'égard de la Vierge Marie, la même attitude filiale de confiance. Même si le but, c'est de nous conduire à l'abandon total entre ses mains. Cette attitude d'accueil aussi, c'est ce que nous cherchons. Alors, c'est évidemment tout le paradoxe. Peut-être que certains d'entre vous sont engagés dans les préparations au mariage. Et c'est la double attitude que l'on cherche à développer chez les jeunes que l'on prépare au mariage. Et c'est aussi un petit peu difficile. C'est qu'à la fois, on leur dit, eh bien vraiment, le mariage, c'est une grâce qu'il faut accueillir. Donc, il faut disposer son cœur à l'accueillir. Encore une fois, comme Marie au matin de l'Annonciation. Et puis, par ailleurs, on leur demande des tas de trucs à faire, de remplir des dossiers, de choisir des lectures, de réfléchir, de remplir des questionnaires. Bon, ben, c'est normal parce que c'est le dynamisme même de la vie. Tous, nous avons bien conscience que la vie nous a été donnée, que nous l'avons reçue. Ce n'est pas nous qui, un beau jour, avons décidé de jaillir du néant pour parvenir à l'existence. Nous avons été appelés à la vie. Et à la fois, nous avons tous aussi conscience, enfin c'est plus ou moins conscient, mais c'est quand même quelque chose qui nous porte tous, c'est que nous avons des comptes à rendre, c'est que nous sommes responsables de la vie que nous avons reçue. Ce qui est paradoxal quand on y réfléchit, parce que, après tout, hein, comme disent souvent les adolescents en crise, j'ai pas demandé de vivre, bah oui, mais bon, ça t'a été donné, hein, voilà, c'est. Comme dit saint Thomas, reprenant la Bible, hein, un chien vivant vaut toujours mieux qu'un lion mort, voilà. Et tu es responsable de ta vie. Eh bien, c'est au fond des jeunes gens qui se préparent au mariage, et vous avez reçu la grâce du sacrement de mariage, c'est un don qui vous dépasse infiniment, et pourtant vous en êtes responsable. Alors rassurez-vous, Dieu vous donne les moyens d'être responsable. C'est le principe même de la grâce de Dieu, c'est de nous permettre d'accomplir des œuvres que nous ne pourrions pas accomplir si nous étions laissés à nos propres forces. D'où la parole de Jésus qui peut nous surprendre hein, quand il promet le don du Saint-Esprit dans le discours qu'il adresse à ses disciples après la scène, juste avant d'offrir sa vie en sacrifice sur la croix. Il dit bien, donc l'Esprit Saint viendra en vous. Vous accomplirez les mêmes œuvres que moi, et vous en accomplirez même de plus grandes encore. Donc, autrement dit, nous sommes appelés à accomplir des plus grandes œuvres que le Christ. Alors, évidemment pas qualitativement, mais nous sommes appelés, parce que nous sommes l'Église, à donner une diffusion à travers le temps, à travers l'histoire, à travers l'espace, à ce que le Christ réalise. C'est ça, accomplir de plus grandes œuvres encore. Voilà pourquoi il ne faut jamais être inquiété de la disproportion entre ce qui nous est demandé et puis les moyens naturels qui sont à notre disposition. La grâce de la Vierge Marie, c'est justement de ne pas regarder sur la faiblesse de ses moyens, même si elle veut coopérer absolument au dessein du salut, hein, d'où sa question, comment cela se fera-t-il? Et elle finit pas en disant, non mais c'est pas possible. Que tout se fasse en moi selon ta parole. Je crois que Jésus est le maître de l'impossible. Alors ça c'est quelque chose que l'on sait plus ou moins intellectuellement, cela a pu nous être donné pendant nos années de catéchisme, hein, révélé ou communiqué durant nos années de catéchisme, mais autre chose est de le vivre vraiment. On devient chrétien à partir du moment où effectivement on a fait l'expérience et de sa petitesse et de notre incapacité et de la présence de Dieu qui sauve. Sinon nous chantons sur tous les tons et tous les modes, spécialement de l'entendre l'avant, mais pas simplement hein, que Dieu est notre sauveur, mais qu'est-ce que ça signifie très concrètement être sauvé? Et c'est là où justement la prière de « Je vous salue Marie » peut nous éduquer très profondément à accueillir le don de Dieu. D'où un autre aspect que souligne, voilà, c'est ça la contemplation. Et ça n'empêche pas, il y a de très grands contemplatifs qui sont ennuyés à 100 sous de l'heure pendant leur oraison, pendant le temps d'adoration. Mais que nous, voilà, nous soyons attentifs. Hein. Il faut bien distinguer ce qui est le fruit spirituel en nous de comment dire, l'attitude psychologique. Hein. C'est-à-dire que la conscience psychologique que nous avons, plus ou moins d'ailleurs ferme, forte, n'empêche pas le Saint-Esprit d'agir. À partir du moment où nous ne sommes pas distraits, volontairement. Si effectivement on se dit, bon, bah, très bien, bah, t'as bon, maintenant il fait une demi-heure d'oraison, d'adoration, bon, bah, tant qu'à perdre son temps, autant préparer ma liste de courses pour après, là, c'est ce qu'on appelle une distraction volontaire. En revanche, les distractions involontaires n'empêchent pas la grâce d'agir, puisque justement, elle agit à une autre profondeur. Et il faut se méfier, justement, si vous êtes trop content de votre prière. Un jour, une brave dame disait au curé d'Ars, que nous allons célébrer demain, hein, « Ah, monsieur le curé, vraiment, je... » Oui, et demain, c'est ? J'étais pas tombé loin. Une brave dame disait au curé d'Ars, « Ah, monsieur le curé, vous savez, j'ai fait oraison ce matin à l'église et j'ai vraiment senti que le Saint-Esprit était là, que la Vierge Marie était là, qu'elle m'accompagnait, enfin voilà, était quasiment en extase. » Et le curé d'Ars, qui lui s'y connaissait, si je puis dire, en prière aride, lui a répondu, « Madame, c'est juste que vous avez fait une bonne digestion et c'est tout. » Voilà. Alors, nous ne sommes pas, comment dire, juges de la qualité de notre prière. Mais en tout cas, ce que souligne le pape Paul VI, c'est que, justement, vraiment, la prière du rosaire est une prière évangélique, qu'elle est très enracinée dans l'Évangile, non seulement parce qu'elle fait mémoire des principaux épisodes de l'Évangile, mais parce qu'elle nous met dans cette attitude évangélique d'accueil de la présence de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que l'Évangile, sinon la description de la venue de Dieu en notre chair? C'est une prière évangélique et c'est aussi une prière du cœur. Alors c'est vrai qu'il y a la répétition, et ça peut être une difficulté, représente un certain risque. Hein. Nous devons nous rappeler la parole du Seigneur. Hein, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. Il ne faut pas imaginer que... Alors ça, c'est aussi un réflexe que nous avons par rapport à la prière, hein, qu'en fait, il s'agirait d'arriver à un certain niveau, de bonnes actions, pour que, voilà, on obtienne l'aide de Dieu. il se trouve que à l'abbaye d'Ourscan, on a beaucoup de jeunes qui viennent réviser leurs examens. Je ne sais pas si vous connaissez Ourscan. Enfin, Ourscan, on prie, on travaille ou on s'ennuie. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Et donc, ouais, et puis, pour peu que durant le séjour de ces étudiants-là, vous proposez une messe du Saint-Esprit pour la réussite aux examens, là vous sentez un grand élan de piété et d'enthousiasme spirituel. Mais il se trouve que très souvent, on n'a pas suffisamment. On pense que voilà, et que si on a raté, bah c'est parce qu'on n'a pas arrivé tout à fait le niveau. Voilà, j'aurais pris un rosaire de plus, là, ça aurait passé, mais et spécialement par rapport aux examens. Un très bon ami qui a raté deux fois l'école, enfin qui était deux fois admissible à l'école de guerre, qui l'a raté deux fois. Bah, son réflexe était un peu ça, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai pas employé, est-ce que par hasard j'aurais pas employé les mauvaises formules, ou en tout cas j'ai pas trouvé les bonnes formules. Alors là, c'est un rapport un petit peu magique à la prière. Et ça peut être un dévoiement du sens spirituel. Quand j'étais diacre, j'avais fait un temps en Argentine et j'accompagnais un camp scout. Et les scouts avaient fait un radeau. Et ils tenaient absolument à ce que je bénisse le radeau. Alors, moi, évidemment, j'ai rien contre la bénédiction, mais je sentais qu'on me demandait un peu de faire le sorcier, quoi. Alors, j'essayais de leur expliquer le sens de la bénédiction. Ils s'en fichaient complètement. Ce qu'ils voulaient, eux, c'est que je bénisse le radeau. Alors, à la fin de guerre lasse, j'ai béni effectivement le radeau. La patrouille monte sur le radeau coule. Et je vois le CP venir me voir, c'est l'air vachement soupçonneux, me dire, mais t'as appris où à bénir? Voilà. Comme s'il s'agissait encore une fois de formules à bien appliquer. La prière du chapelet nous conduit à une prière du cœur, c'est-à-dire à une attitude évangélique qui fait que, quels que soient les aléas de la vie, alors bien entendu, c'est tout à fait légitime de prier pour les succès aux examens, mais c'est encore beaucoup plus légitime de prier pour que, quel que soit le résultat, eh bien, que nous réagissions en chrétiens. Voilà, et c'est en ce sens que j'ai dit que vraiment le chapelet nous conduit à une prière du cœur. À nous apprendre petit à petit, et même si c'est difficile, que la volonté de Dieu, en tout cas ce qu'il nous envoie comme épreuve, ou ce qu'il permet aussi dans nos vies, tant que nous ne sommes pas comment dire, tant que nous ne sommes pas séparés de l'amour du Christ, rien de grave ne peut nous arriver. Un jour, quelqu'un demandait à André Frossard, non, André Frossard demandait, pardon, à Jean-Paul II, mais quel est le. Pour l'homme d'aujourd'hui, qui est le plus grand danger? Jean-Paul II a répondu, ben, le péché. Si je puis dire, c'est un danger de toujours. Donc la prière du chapelet est aussi un chemin pour nous apprendre cette confiance, je dirais, envers et contre tout, et qui fait que ben, rien de grave ne peut nous déstabiliser. Et là, on peut faire un petit parallèle par la méditation des mystères avec la liturgie. Je crois vous l'avoir dit au début, mais la liturgie, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est même pas une invitation le fait de déployer devant nous, hein, des bons exemples, des histoires pieuses auxquelles on devrait adhérer, dire ben voilà, puisque Jésus a fait ça, on doit faire ça. Non. Par la liturgie, ce qui est célébré se réalise. C'est pour ça que le maître mot de la liturgie, c'est aujourd'hui, hodie. Lorsque nous participons à la messe, c'est le sacrifice de Jésus qui est rendu présent. Lorsque nous communions à la messe, c'est le Christ ressuscité, à jamais victorieux, qui nous est communiqué, qui nous est donné. C'est par la liturgie que les événements de salut que le Christ a vécu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a subi pour nous les hommes et pour notre salut, est rendu présent et est rendu opérant dans ma vie. C'est pour ça que la liturgie est si importante, hein, parce que sans elle, eh bien, effectivement, je m'éloignerai. Au fur et à mesure que j'avance dans le temps, eh bien, évidemment, on s'éloignerait des événements du salut. Mais c'est la liturgie qui rend présent, parce que ce que Jésus a vécu, ça a une valeur infinie, parce que ce n'est pas une personne humaine qui l'a vécu, c'est la personne même de Dieu, la personne du Verbe de Dieu. Et donc, ça a une valeur infinie non seulement d'enseignement, mais pas simplement d'enseignement, de salut. Parce que si on nous donne des tas d'exemples, mais si on. C'est ça qui est un petit peu, parfois, dans la vie des saints, qui peut être décourageant, c'est que à lire certaines vies de saints, on a l'impression que. Enfin, on trouve ça admirable, mais on se dit, moi, j'y arriverai jamais. Or, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, et ça, on le sait souvent, par leurs journaux intimes, par leurs correspondances, bah, qu'ils en ont bavé. Enfin, de même, eux n'avaient pas du tout conscience d'être des saints. Et puis que petit à petit, dans leur cœur, a grandi une confiance totale à Dieu. Et ce qui fait que, à la fin de leur vie, quand on leur dit, mais à la fois, il y a un réflexe à Saint-Vincent de Paul, vous savez, quand on demande à Saint-Vincent de Paul, mais qu'est-ce que vous auriez voulu faire de plus? Il a répondu, davantage. Bon. Mais à la fois, les saints disent, mais c'est Dieu qui a tout fait, moi, j'ai rien fait. J'étais là au bon moment, il m'a choisi, mais. Et en plus, ils ont l'air vraiment de le croire, quoi. Et non seulement ils le croient, mais ils en ont fait l'expérience. C'est pour ça qu'aussi, quand on dit aux saints que c'est des saints, ça les fait rigoler. Alors que nous, parfois, on est plutôt tenté de se trouver plutôt pas mal. Voilà. Alors, et du coup, on peut faire un rapport entre la liturgie et la prière du chapelet. Évidemment, un degré moindre, mais c'est que la prière du chapelet, justement, dispose nos cœurs. C'est vrai qu'il ne faut jamais séparer la liturgie de ce qu'on appelle les autres exercices de piété. Mais le chapelet dispose nos cœurs, par cette attitude contemplative d'accueil, cette méditation du mystère, à accueillir vraiment les mystères de la vie du Seigneur. Donc c'est pas seulement des mystères qui sont proposés à notre intelligence ou à notre cœur en disant ben voilà ce que tu as appelé à vivre, mais justement on demande un fruit spirituel, une grâce spéciale qui nous permet, ou qui permet plutôt au Saint-Esprit de faire nôtre ces mystères. Donc oui, il n'y a absolument rien de magique, hein, parce que si c'est une prière où nous n'y mettons pas tout notre cœur, eh bien ça n'est d'aucune efficacité, si je puis dire. Mais c'est très, très certainement un moyen que Dieu a choisi pour aider son peuple à grandir dans l'intelligence et surtout dans la pratique de l'Évangile. Et puis enfin, un dernier aspect que souligne le pape Paul VI, et qui me semble très, très simple. Alors bien sûr, on voudrait sans doute que les familles, un peu comme les ministres de l'Église, hein, c'est là notre première mission, hein, prie à l'aide de ce qu'on appelle la liturgie des heures, hein, les laudes, les vêpres, etc. Mais ça paraît peut-être pas très réaliste parce que pas toujours très bien adapté. En revanche, il y a une prière qui est très bien adaptée à la vie de famille, c'est justement la prière du chapelet, hein, la prière du rosaire. Ne serait-ce, il y a des familles qui disent un chapelet tous les jours, d'autres familles qui disent juste une dizaine de chapelets, je dirais peu importe, mais voilà, c'est une prière qui, justement, par sa simplicité et à la fois sa profondeur, va de 7 à 77 ans, et même en deçà et au-delà. Mais en tout cas, c'est vraiment la prière de la famille. D'autant plus qu'on est dans des situations aujourd'hui tellement compliquées, hein, ne serait-ce même que pour réunir la famille, hein, même quand toute la famille vit encore sous le même toit, mais vous savez combien c'est parfois difficile. Ben, à cette difficulté, à cette complexité, correspond merveilleusement la simplicité de la prière du chapelet. Alors ça peut être invitation. Après, on peut effectivement être soutenu par la méditation de tel ou tel passage d'évangile en référence au mystère célébré. Et ça, on a aussi cette chance, c'est que aujourd'hui vous avez une multitude d'aides, hein, très, très, très concrètes. Il y a par exemple une petite collection qui s'appelle « Prier le rosaire avec ». Avec Saint Maximilien Kolb, donc pour chacun des mystères, on va trouver. Alors, il ne faut pas non plus que ça devienne trop lourd, mais parfois c'est bon aussi, ben, quand on a un peu plus le temps, encore une fois, pour nourrir notre méditation et notre prière. Et puis vous savez très bien aussi qu'on peut dire le chapelet facilement en conduisant, dans les transports en commun. Enfin, voilà. C'est un petit peu un réflexe. Bien sûr, il est bon de prendre des temps un peu plus longs de prière, mais aussi d'avoir ce réflexe, ben, de la prière de Notre Père, du Je vous salue Marie, dans nos journées. Et d'ailleurs, je vous ai rappelé la parole du Seigneur, hein, ne rabâchez pas, mais il n'empêche que quand les apôtres demandent à Jésus, apprends-nous à prier, il leur donne, hein, une prière, celle justement celle du Notre Père. Hein, pour bien signifier qu'on a besoin. La prière, c'est pas simplement dire des prières, mais nous avons aussi besoin, parce que, en raison de la manière dont nous sommes construits psychologiquement, nous avons aussi besoin des mots de la prière. Mais il est très possible, hein, si au bout d'une ou deux, c'est comme la lecture spirituelle, hein, en tout cas pour la prière du chapelet, si au bout d'un ou deux mystères, on sent que le bon Dieu frappe à notre porte et puis veut nous parler un peu en direct, ben très bien, on va pas dire, oh, Seigneur, attendez, il faut que je finisse ma dizaine. Hein, et puis, ben, quand de nouveau une certaine monotonie, une certaine lassitude se réinstalle, bah, tout simplement revenir, hein, à la prière du chapelet, tout simplement, hein, comme des pauvres. Voilà, c'est très touchant de penser que, bah, c'est la même prière qui unit depuis le pape jusqu'au dernier des baptisés, des enfants, des malades aussi, Parce que c'est vrai aussi que lorsqu'on est bien malade ou qu'on souffre, ben on n'a pas le cœur à de grandes méditations obligatoirement, mais il y a toujours la prière du chapelet. D'ailleurs, c'est très possible. Enfin, la tradition qui existe encore dans beaucoup de nos familles, hein, ben quand il y a un défunt, on remet, enfin voilà, il a les mains attachées par le chapelet. C'est une réalité qui est très belle. Voilà un petit peu pour Paul VI. Ça va? Il vous reste encore quelques forces. Et donc aborder un deuxième grand texte, donc cette fois du pape Jean-Paul II. Un texte qui date du 16 octobre 2002. Donc 16 octobre, c'est l'anniversaire de son élection. Donc, 16 octobre 1978, son élection comme pape. Et puis 2002, ben, nous sommes pas très longtemps avant sa mort, enfin 3 ans avant sa mort. Même 2 ans et demi, et avec dans la perspective, dans un contexte bien particulier qui était celui de l'entrée dans le troisième millénaire. Alors, vous vous en rappelez tous, combien lorsqu'il a été élu en 78, le pape Jean-Paul II a mis son pontificat, en tout cas la première partie de son pontificat, dans la perspective de la préparation du grand jubilé de l'incarnation de l'an 2000 qui approchait. Et d'ailleurs, ce cardinal Wyszyński, donc l'autre grand archevêque cardinal polonais, lui avait dit « Tu feras entrer l'Église dans le troisième millénaire. » Et vraiment, donc, vous vous rappelez de ces années de préparation intense qui ont abouti donc, aux célébrations du jubilé. Donc c'était vraiment une année de grâce. Et ce qui a été très, très impressionnant, c'est de voir qu'à l'issue de ce jubilé, on aurait pu penser, enfin, que le pape aurait pu jouir d'un repos bien mérité, dire bon, c'est bien, c'est quand même. Et il a écrit une lettre donc en 2001, donc à la fin de l'année jubilaire, qui s'appelle Novo Millennio Inuente, donc en entrant dans le nouveau millénaire, où il cherchait justement, où il proposait à l'Église de revenir à l'essentiel. Et de revenir à l'essentiel, pour lui, c'est quoi? C'était contempler le visage du Christ. Et lorsqu'il présente. Alors c'est une réalité très concrète, hein, c'est-à-dire que au fond, comme je vous ai rappelé ce qu'il avait dit déjà dans sa première lettre encyclique, hein, tout ce que l'Église fait, elle ne poursuit qu'un seul but, c'est au fond de conduire à la contemplation de ce visage. Contempler étant faire sien, étant s'approprier. C'est une idée de la philosophie grecque, mais qu'on a tout à fait repris dans le christianisme. On devient ce que l'on contemple. On s'assimile ce que l'on contemple. D'ailleurs, une autre exercice de piété qui s'est beaucoup développé en parallèle avec la prière du rosaire, c'était l'adoration, hein, et spécialement l'adoration silencieuse du Saint-Sacrement, hein, qui a cet immense avantage, c'est qu'elle est très au-delà de la diversité de sensibilité spécialement liturgique, ben, si je puis dire, l'adoration, parce qu'elle se fait en silence, je dirais, est très fédérative. Et il y a même je donne des cours au grand séminaire de Toulon, et là il y a une association de fidèles qui est en train de se constituer pour devenir peut-être un jour, si Dieu veut, soit un institut religieux, soit une société de vie apostolique, dont le charisme est de former des communautés paroissiales à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Et c'est quelque chose qui a 20-25 ans, enfin à part il y avait ici la basilique justement du Sacré-Cœur de Montmartre, où depuis plus d'un siècle il y a une adoration du Saint-Sacrement de jour et de nuit, bah de voir que de plus en plus de paroisses, d'abord toute la journée et certaines aussi de jour et de nuit, donc assure cette permanence d'adoration, d'intercession, et ça sera source, je suis sûr, de très grandes grâces. Voilà, vous voyez, ça illustre bien ce retour à l'essentiel, ce retour à la contemplation du visage du Christ, un visage à la fois glorifié et défiguré par nos péchés, glorifié par le mystère de sa résurrection. Et c'est là où le pape Jean-Paul II, donc dans ce désir que les chrétiens s'assimilent de plus en plus profondément la personne du Christ, parce que ce qui est premier dans le christianisme, c'est notre relation au Christ. C'est pas tout ce que nous allons pouvoir faire comme œuvre d'évangélisation ou d'éducation ou de progrès matériel au nom de notre foi, même si il faut le faire, mais ce qui est premier, c'est notre relation avec le Dieu vivant. C'est notre relation filiale. Et tout le reste, si je puis dire, tout ce que nous pouvons faire, y compris les plus grandes choses, ce n'est que pour manifester, bien imparfaitement, ce mystère d'appartenance au Christ. Mais ce qui est premier, c'est cette appartenance au Christ. Le drame, c'est quand justement nous n'avons plus ce sentiment d'appartenance. Et voilà pourquoi donc le pape Jean-Paul II propose de compléter en quelque sorte donc la série des trois mystères, enfin plutôt les trois séries de mystères jusqu'ici que nous méditions, donc les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux, donc de rajouter une catégorie, hein, les mystères lumineux, qui correspondent en fait au mystère de la vie publique du Christ. Alors demain je détaillerai un petit peu tout ça, mais ce que le pape souligne, c'est que, au fond, ça correspond au dynamisme même de la vie chrétienne. Alors, dans la disposition des jours, on ne le voit pas obligatoirement, puisque lundi, c'est joyeux, mardi, c'est douloureux, mercredi, c'est glorieux, jeudi, c'est lumineux. Mais si, par exemple, il vous venait à l'idée de dire un rosaire complet dans votre journée, l'ordre que je me permets de vous recommander, c'est plutôt, effectivement, les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Parce que, d'abord, c'est la chronologie. Et justement, dans cette chronologie, c'est le dynamisme même de la vie chrétienne qui nous est donné. Parce que nous commençons d'abord dans la joie. Alors, ce n'est pas n'importe quelle joie, ce n'est pas la satisfaction. La joie provient de la possession d'un bien désiré. Mais je dirais que la joie évangélique est très différente parce que c'est une joie qui est inespérée. En ce sens où c'est la joie du salut, la joie du sauveur. Et nous, on ne va pas faire semblant de ne pas savoir. Nous savons que celui qui nous est donné comme sauveur, c'est Dieu lui-même. Et donc là, cette découverte, cet accueil est source d'une grande joie. C'est d'ailleurs l'objet de l'annonce des anges, le troisième mystère joyeux, la nativité. Qu'est-ce que disent les anges aux bergers? Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Hein, c'est la joie du baptême, c'est la joie de recevoir la vie divine en nous. Et pourtant, si nous voyons les cinq mystères joyeux, donc annonciation, visitation et nativité, et nous voyons tout de suite, d'ailleurs la nativité est déjà nimbée d'une certaine tristesse, puisqu'il y a aussi le massacre des saints innocents, le refus. Hein, les évangiles de l'enfance de Jésus, ce n'est rien d'autre que l'illustration du verset du prologue de saint Jean. Hein, il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Hein, c'est donc, le Christ vient affronter une situation de péché, une situation de ténèbres. Et les deux derniers mystères joyeux semblent déjà nous basculer vers les mystères douloureux, hein, puisqu'il y a la présentation de Jésus au temple, où il est prophétisé à la Vierge Marie que son fils sera un signe de contradiction et qu'un glaive de douleur lui transpercera son cœur maternel. Et puis le recouvrement de Jésus au temple, qui anticipe, puisque Marie et Joseph cherchent pendant 3 jours Jésus, et effectivement c'est une anticipation de sa mort, et que ses parents vivent effectivement une situation de grande angoisse. Alors normalement on devrait basculer vers les mystères douloureux, mais justement viennent s'intercaler les mystères lumineux. Et bien, je dirais que les mystères lumineux, ça correspond après la joie du salut, à l'éducation de la foi, que nous avons besoin d'être éclairés par la lumière de l'évangile. Donc à travers les différents mystères, on voit bien comment Jésus, par une pédagogie qui va donc des noces de Cana, ou plutôt de son baptême, où il est à l'Eucharistie, eh bien on est dans un dynamisme de révélation. Jésus révèle petit à petit qui il est et quelle est son identité. Alors, je vous ai déjà parlé de Cana, mais déjà au baptême du Seigneur, il est désigné par Saint Jean-Baptiste comme l'agneau du sacrifice, l'agneau qui porte et qui enlève le péché du monde. Ça veut dire qu'il est le sauveur du genre humain. À Cana, comme on l'a vu aussi, mais je crois que vous reverrez aussi ce texte avec le Père Maximilien, il se désigne comme l'époux de toute l'humanité, de toute l'humanité sauvée. Et c'est d'ailleurs là-dessus que Saint Paul s'appuiera pour affirmer la grandeur du mystère du mariage chrétien. Parce que tout mariage chrétien est comme la manifestation de ce mystère du don total que Dieu a fait à l'humanité. Et c'est aussi la raison la plus profonde, pas la plus facile à saisir, mais la plus profonde de l'indissolubilité du mariage. C'est que l'incarnation, elle va jusqu'au bout. Jésus ne dit pas, je me fais homme, mais dès que ça devient un peu difficile, whoop, je remonte dans mon ciel. Comme dit Charles Péguy, l'incarnation, elle est loyale, elle va jusqu'au bout. Le mystère de la prédication du royaume, où justement Jésus révèle le mystère du royaume de Dieu et ses implications concrètes. Alors, c'est une lumière, mais c'est une lumière qui révèle aussi les ténèbres qui habitent notre cœur. Et voilà pourquoi. Alors, on n'a pas une liste bien définie des fruits à demander à l'occasion des mystères lumineux. Le concours est ouvert. Hein. Mais parfois, ce qui revient quand on médite ce mystère, c'est la conversion. Moi, je crois que c'est assez bien adapté. Lorsque la prédication est vraie, elle pousse à la conversion. Lorsque Saint Pierre adresse son premier discours au matin de la Pentecôte, réaction de la foule. À l'entendre, ils en eurent le cœur transpercé. Que devons-nous faire? Et Saint Pierre leur indique le baptême et la conversion. Et puis les deux autres mystères lumineux, donc là, en effet, le Tabor, la transfiguration, où Jésus laisse paraître qui il est. À la fois, il récapitule la loi et les prophètes, hein, Moïse et le prophète Élie. Et puis il laisse transparaître qui il est. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le Père, puisque c'est des paroles d'autorité. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. D'où la nostalgie d'ailleurs pas trop la formule, mais dressons trois tentes. C'est une allusion à la fête des tentes, où justement pendant quelques jours, je crois 8 jours, les Juifs abandonnaient, encore aujourd'hui d'ailleurs, abandonnent leur maison confortable et se fabriquent des cabanes non pas par goût du scoutisme ou que sais-je encore, mais parce que c'est faire mémoire de ce temps où Dieu, à la fois ces temps de précarité, d'une vie assez austère, assez rustique, mais où le peuple d'Israël a fait l'expérience de la présence de Dieu qui le protégeait. Parce que justement, il n'avait pas d'autre protecteur. Et donc, dans le peuple d'Israël, il y a toujours cette nostalgie du désert. Enfin, Dieu sait si le désert, c'est pas un lieu très agréable, mais au moins, on ne pouvait compter que sur Dieu. Et voilà pourquoi aussi tous les temps de pénitence dans l'Église, l'Avent, mais surtout le Carême, hein, nous sont présentés comme des temps de libération. Parce que nous faisons enfin l'expérience, nous nous mettons en situation de faire l'expérience de l'amour miséricordieux de Dieu. Voilà, et donc c'est la lumière, hein, qui doit éclairer notre intelligence, nous éclairer sur le mystère sur le mystère de Dieu et sur notre propre mystère. Alors, ça, on a eu la chance d'avoir deux papes, hein, je pense à Jean-Paul II et à Benoît XVI, et c'est parce que c'est aussi la première mission du pape comme évêque, c'est justement la prédication. Hein, mais c'est aussi vous, votre responsabilité comme parents. Nous, il se trouve que notre charisme, c'est l'éducation de la foi des jeunes, et ça passe obligatoirement par un côté didactique. Alors, bien entendu, on peut, il faut trouver tous les moyens, comment dire, pédagogiques, mais il n'empêche qu'on passe toujours par une phase d'éducation profonde de la foi. Et c'est peut-être aussi ce qui manque aujourd'hui, et ce qui explique un petit peu aussi la difficulté de la situation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Hein, qui ne savent pas trop en quoi et surtout en qui ils croient. Et donc il y a vraiment un travail de pédagogie qui est un peu austère. Hein. Mais enfin, plus on aime, plus on connaît, plus on connaît, plus on aime, plus on aime, plus on connaît. Mon père spirituel, un moine bénédictin, m'avait écrit un jour, j'étais étudiant, il m'avait dit. Vous en apprendrez toujours plus vous en apprendrez toujours plus sur Dieu dans la prière que dans les livres, trois points de suspension, à condition d'avoir lu les livres. Je trouve que c'est très, très, très juste. Avec l'expérience maintenant de 20 ans de vie religieuse, je peux dire, c'est 25 ans même, c'est tout à fait exact. Parce que les écrits des saints mettent des mots sur ce que nous vivons. Ils ne font pas le travail à notre place. C'est pas parce que vous aurez lu les œuvres complètes de Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix que vous aurez fait oraison, hein, ça remplace pas, mais quand vous aurez des difficultés dans l'oraison, eh bien vous mettre à l'école de ces grands saints qui sont passés par les mêmes étapes que vous et qui ont eu la grâce spéciale, justement, une grâce spéciale de pédagogie pour nous éclairer et nous rassurer, parfois nous inquiéter un peu, on risque de s'endormir, mais de nous dire, mais non, c'est normal de passer par là. Et on voit bien aussi d'ailleurs dans la direction spirituelle, 80% de la direction spirituelle, ça consiste à rassurer, c'est-à-dire pas à bon compte, mais de mettre des mots, hein, sur ce que le dirigé est en train de vivre. Voilà. Alors, on en a une belle illustration avec les exercices de Saint-Ignace de Loyola, parce qu'il y a vraiment, si je puis dire, une phénoménologie très, très précise des états d'âme dans lesquels, enfin, par lesquels on est appelé à passer quand on fait un vrai chemin de conversion, mais cela est vrai de tous les saints. Encore une fois, les saints vous font gagner beaucoup de temps parce qu'ils mettent des mots sur ce que nous sommes tous appelés en tant que chrétiens à vivre. Les mystères douloureux, parce que justement, après l'enthousiasme des premiers moments, on découvre que, pour reprendre l'expression de ce que Jésus a dit à une mystique qui s'appelle Angèle de Foligno, donc le Christ lui était apparu avec les instruments de la passion et lui a dit: ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Et c'est vrai qu'en Occident, il y a toute une dévotion à la passion du Christ qui s'est beaucoup développée, qui correspond, je pense, au génie propre de l'Occident. Je pense effectivement à l'école franciscaine, le chemin de croix, autre forme de piété qui a été vraiment et qui est toujours bien mis en valeur par le... Et puis on peut penser aussi à ces icônes, justement, de la passion du Christ. Un saint François d'Assise qui a reçu les stigmates, un padre Pio, enfin on pourrait enfin, multiplier les exemples, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais de voir combien la passion du Christ, alors qui n'est pas du tout une contemplation morbide, ça peut l'être dans certains cas, hein, qui n'est pas du tout une contemplation morbide, mais justement de découvrir à quel point Dieu nous a aimés. Hein, et d'avoir cette, et là je dirais c'est très occidental, mais d'avoir cette dévotion, cette très affective, hein, pour le Christ en sa passion. Voilà. De découvrir quel a été le poids de son amour. Mais avec tous les éléments que je vous ai donnés hier à propos de la liturgie du Vendredi Saint, et qui aboutit justement à la gloire. Et à la gloire, si je puis dire, on dépasse la joie, on dépasse la souffrance, mais on est parfaitement uni à Jésus. Dans la vie spirituelle, on considère qu'il y a aussi des voies plutôt de conversion, ce qu'on appelle les voies purgatives, des voies illuminatives, où vraiment la grâce du Saint-Esprit vient éclairer notre intelligence. Mais il y a un au-delà de tout ça, ce qu'on appelle la vie unitive, hein, qu'on fait un avec Jésus. Voilà. Et c'est aussi le but de la vie spirituelle. Et bien par la méditation des mystères de gloire, depuis la résurrection jusqu'à l'Assomption de la Vierge Marie, ou du retour du Christ dans la gloire, eh bien, nous méditons au fond quel est notre destin, ce à quoi nous participons depuis le jour de notre baptême. Hein, c'est vrai que nous n'avons pas à craindre les récits apocalyptiques, parce que ça nous est déjà arrivé. Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ, et nous sommes vraiment ressuscités avec lui. Et c'est le but de la vie spirituelle, c'est justement de nous unir totalement à Jésus. Quand le Christ en croix serait apparu à saint Thomas d'Aquin à la fin de sa vie, il est mort à 49 ans, hein, il n'est pas mort très vieux, mais et Jésus a dit à saint Thomas: tu as bien parlé de moi, Thomas, un beau compliment quand même, hein. Que veux-tu? Et qu'est-ce qu'a répondu Thomas? Toi, Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que nous cherchons d'abord et avant tout? C'est d'être unis au Seigneur Jésus. Alors, nous le sommes encore, nous le sommes déjà par notre baptême, par notre confirmation, puisque nous avons reçu l'Esprit même du Christ, mais il s'en faut encore de beaucoup, c'est-à-dire de notre conversion, pour que cette vie d'union se manifeste, hein, y compris dans nos réactions. Et là, c'est tout l'objet, on va dire, du combat spirituel que nous avons à mener. Hein. Saint François de Sales dit: il y a des tentations qui mourront un quart d'heure après nous-mêmes. Ça veut dire que jusqu'au bout, hein, nous aurons à lutter, mais nous sommes assurés de la victoire. Voilà, donc vous voyez, c'est toute cette pédagogie du développement spirituel, alors qui est très développée chez certains saints qui ont beaucoup écrit sur ces questions-là. Hier, nous fêtions saint Alphonse de Ligorie, et c'est vrai que ce qui est très frappant chez saint Alphonse de Ligorie, le grand théologien moraliste, mais c'est ce souci aussi qu'il avait d'écrire des textes de piété avec des moyens pastoraux très, très simples, hein, ce qu'on appelle les oratorios, ces petits groupes de prières du soir qui se réunissent encore aujourd'hui, hein, à Naples, voilà, autour de l'Évangile, autour de quelques chants. Et vous voyez, c'était simplement pour que les gens puissent avoir la certitude que Dieu ne s'intéresse pas simplement à eux le dimanche à la messe, mais qu'ils sont appelés à imprégner de vie chrétienne, et bien de l'Évangile, toute leur existence. Mais je crois que parmi les moyens à la fois très simples, très beaux, et moyens auxquels une véritable efficacité de grâce est attachée, eh bien, il y a la prière du rosaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis bah, demain, enfin, demain, ce sera la dernière fois, je crois. Eh bien, ça tombe bien, puisque bah, on cherchera alors, non pas, vous connaissez déjà la liste des mystères, mais soit en présentant le mystère, il y a déjà un certain nombre que nous avons vu, soit en présentant le fruit spirituel du mystère, eh bien, nous verrons très, très concrètement comment la prière du rosaire peut, si je puis dire, structurer notre vie de foi. Au-delà de ce que l'on ressent, c'est très bon de prier d'abondance du cœur, mais la liturgie, comme la prière, nous oblige même un peu à sortir de nous-mêmes, si je puis dire, puisque elle nous fait communier au sentiment, non pas de nos propres sentiments, mais au sentiment de l'Église, au sentiment du Christ. Et tout ce qui, dans la vie spirituelle, nous sort de nous-mêmes, eh bien, c'est excellent.